Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 25. La nuit du vendredi. Que venait faire dans cette maison Raoul de la Tremblay? Selon toute apparence, ce n'était point la passion du jeu qui l'y conduisait, car nous savons déjà que le chevalier était riche. Assez riche pour envoyer d'un seul coup 100 000 écus en or à un grand seigneur un peu gêné, auquel il promettait en outre de fournir d'autres argent quand celui-ci serait épuisé. Raoul ne devait donc trouver qu'un bien minime intérêt à empocher quelques misérables louis héroïquement disputés par le trèfle au cœur, par le pic au carreau. Si vraisemblable que paraisse cette supposition, elle serait fausse cependant. Raoul venait là pour jouer, car Raoul adorait le jeu, non pour le gain qu'il en pouvait retirer, mais pour les émotions qu'il procure. Raoul avait besoin de s'installer le soir autour d'un tapis vert et d'y voir pâlir les bougies aux premières clartés du jour. Il lui fallait entendre le tintement des pièces d'or remuées par des mains convulsives, les exclamations délirantes des joueurs favorisés par le hasard, les cris de rage des joueurs malheureux. Les combats acharnés du roi de cœur et de la dame de pique, les luttes homériques d'Augier et de Lancelot le galvanisaient. Il se plaisait au spectacle des ongles crispés, déchirant les poitrines haletantes et ensanglantant les dentelles de Malines et le poing d'Angleterre. On conviendra volontiers que le démon du jeu possédait notre héros d'une façon toute spéciale et qu'il était d'autant plus profondément joueur qu'il ne jouait ni pour gagner ni pour perdre, mais seulement pour toucher des cartes et voir gagner ou perdre les autres. Par un hasard assez étrange, il n'y avait ce soir-là, parmi les hôtes nombreux de la maison de jeu, personne de la connaissance intime de Raoul. Le chevalier échangea en passant quelques saluts à droite et à gauche, saluts de simple politesse, puis il s'approcha d'une table de lansquenet, et se tenant debout derrière les joueurs, il regarda la partie qui se poursuivait avec acharnement. En face de lui, et les coudes appuyés sur la table, se trouvait un gentilhomme d'une 20aine d'années, d'une stature moyenne, mais paraissant doué d'une force extraordinaire. Ce jeune homme, au visage gracieux et juvénile, jouait avec une chance si brillante et si persistante que l'or et les billets de caisse s'amoncelaient devant lui et formaient un tas qui grossissait d'instant en instant. Raoul se souvint que ce favori du hasard, qu'il connaissait de vue, était l'un des officiers du Palais Royal et se nommait le vicomte d'Aubigny. Derrière M. d'Aubigny, et debout comme Raoul, se trouvait un autre personnage qui devait forcément attirer l'attention. Une fois que le regard s'était fixé sur lui, il ne pouvait plus s'en détacher. Ce personnage, grand et sec, avait le visage osseux et le teint bistré d'un Espagnol. Quoiqu'il parût jeune encore, ses cheveux noirs commençaient à grisonner. Ses yeux noirs et profonds étincelaient dans des orbites creuses et charbonnées. Ses lèvres minces ne souriaient jamais, et l'expression habituelle de sa physionomie semblait être une sombre préoccupation. Son nez, en forme de bec d'aigle, et ses narines très mobiles et très écartées, lui donnaient quelque chose de l'aspect d'un oiseau de proie. Il était vêtu en velours noir. Les trois gros diamants qu'il portait, l'un à l'épingle de son jabot, l'autre au doigt annulaire de sa main droite, et le troisième à la garde de son épée, jetait des flammes tellement vives que l'œil en était ébloui. Il ne jouait jamais, il ne pariait point et il ne parlait à personne. Raoul le regarda avec une sorte de curiosité pendant un instant. Puis, comme un des joueurs se levait pour quitter la table, le chevalier s'empara de la place vide et tira de sa poche une poignée d'or qu'il posa devant lui. Le bonheur du vicomte d'Aubigny ne se démentait nullement. Depuis que les parties étaient engagées, il n'avait pas perdu un seul coup. Au moment où revenait son tour de tenir les cartes, un petit frémissement d'attention courait dans la galerie, et les joueurs les plus hardis ne s'aventuraient contre lui qu'avec effroi. La main arriva à Raoul. 25 louis, dit ce dernier en poussant devant lui des pièces d'or. C'était une brillante entrée de jeu.
Banco, répondit le vicomte. Raoul retourna les cartes. En trois coups, il avait perdu. Le vicomte ramassa les 25 louis, et comme son tas d'or était tellement grossi qu'il risquait de le faire écrouler s'il y ajoutait quelque chose, il mit dans l'une de ses poches l'argent qu'il venait de gagner à Raoul. Les cartes firent le tour du cercle. La main revint au chevalier. 50 louis, dit-il. Banco, répondit le vicomte comme la première fois. Raoul joua. Il tourna un roi, puis une dame, puis trois valets, puis un autre roi. Il avait gagné. Un petit murmure d'étonnement se fit parmi les spectateurs. La chose n'avait cependant rien que de bien simple, mais on s'était accoutumé à cette idée que le vicomte ne pouvait pas perdre. M. d'Aubigny lui-même ne sembla pas moins surpris que les autres joueurs. « Je tiens les 100 louis, » dit-il. Raoul s'inclina en signe d'adhésion et tourna les cartes. En 4 coups, il gagna. M. d'Aubigny ne put s'empêcher de froncer le sourcil, et il murmura avec un mécontentement évident. « Je fais banco de 200 louis. Cela vous convient-il, monsieur ?»« Parfaitement, monsieur, » répondit le chevalier avec une courtoisie du meilleur goût. « Et tant qu'il vous plaira de poursuivre, j'aurai l'honneur de tenir votre jeu. » Décidément, la chance avait tourné. Raoul gagna ce 3e coup comme les 2 premiers. Il en gagna un 4e, puis un 5e. Peu à peu, le tas d'or et de billets de caisse avait changé de place et s'était amoncelé devant Raoul, qui le voyait grossir avec une parfaite insouciance. Le vicomte, lui, supportait la perte avec une impatience très visible. Les veines de son front se gonflaient, ses yeux s'injectaient, on voyait son visage pâlir et se décomposer par degrés. Bientôt, il ne resta plus rien devant lui. Il poussa un rugissement sourd et fit mine de se lever, se croyant complètement à sec. Mais il se souvint à l'instant même des 25 louis de Raoul, et il les tira de sa poche avec la même ardeur qu'en met un homme qui se noie à se cramponner à la planche du salut que lui jette le hasard. « C'est 25 louis, » dit-il. Raoul fit un signe d'assentiment. C'était un coup suprême. L'attention générale redoubla. Le personnage à visage basané lui-même semblait prendre quelque intérêt à ce qui allait se passer. Raoul commença sa main. Les cartes tombaient l'une après l'autre, sans amener de résultat. La fortune, déesse capricieuse s'il en fut, comme on disait jadis, semblait se plaire à faire attendre son arrêt. L'anxiété du vicomte d'Aubigny était effrayante. Pour tromper cette anxiété, il ramassa sur la table un des louis de son enjeu et il le tordit machinalement entre ses doigts. Ce louis se rompit en 2 parties. Le vicomte en prit un second qui se brisa comme le premier. Il fit un brusque haut-le-corps et continua son étrange expérience avec un résultat identique. 10 ou 12 louis eurent le même sort. Raoul ne s'était aperçu de rien, mais au moment où le hasard venait de se prononcer en sa faveur et où il disait « J'ai gagné !» le vicomte se dressa en face de lui et lui jeta à la figure une poignée de louis brisés en s'écriant d'une voix que la colère rendait indistincte. « Vous m'avez volé mon or loyal avec de la fausse monnaie. Vous êtes un fripon et un faux monnayeur. » Raoul devint très pâle. Il tira son épée et fit un mouvement pour s'élancer sur le vicomte. Mais plusieurs personnes le continrent et toutes les voix d'un commun accord répétèrent à son oreille. « Pas ici ! Pas ici !»« Vous avez raison, messieurs, » répondit le chevalier qui avait repris tout son sang-froid. « En effet, ce n'est pas ici que je dois me venger de l'insulte qui vient de m'être faite. » Puis il ajouta en s'adressant à son adversaire « Sortons !»« Quand vous voudrez !» s'écria le vicomte d'un ton furieux. La foule s'écarta pour laisser s'éloigner les 2 ennemis qui allaient évidemment se couper la gorge. À cette époque, les duels étaient choses si communes que personne ne songea même à les suivre. Ils allaient atteindre la porte quand le personnage à figure basanée, qui avait pris un peu les devants, s'approcha d'eux et leur dit « Voulez-vous, messieurs, m'accorder un instant d'audience ?» Le vicomte et le chevalier s'arrêtèrent étonnés en face de cet inconnu qui les abordait ainsi. « Que voulez-vous de nous, monsieur ?» demanda Raoul. « Vous rendre un service, ainsi que cela se doit entre gentilshommes. » « Un service ? Vous ? À nous ?»« Oui, messieurs, un service. Moi, à vous. »« Lequel ? » ?»« Je viens non pas vous détourner d'un duel indispensable, Dieu m'en garde, mais vous dire « Ne vous battez pas aujourd'hui. »« Et pourquoi ? » fit monsieur de la Tremblay. « Parce que, répliqua l'inconnu d'une voix sombre, parce que c'est aujourd'hui vendredi.
Vous êtes fou,
murmura Raoul en haussant les épaules et en faisant quelques pas en avant. Le personnage basané lui barra de nouveau le passage. Depuis le commencement de cet entretien, la colère du vicomte d'Aubigny n'avait fait que bouillonner intérieurement, et elle éprouvait le besoin de s'épancher au dehors. Il saisit avec empressement l'occasion qui s'offrait à lui de laisser évaporer le trop-plein de cette colère. Il marcha droit à l'inconnu, et il s'écria avec un geste menaçant.
« Ah ça ? Qui êtes-vous donc, vous qui venez fort impertinemment, vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas ?»
À ces paroles insolentes, l'inconnu sembla en quelque sorte pâlir sous sa pâleur. Il redressa sa haute taille et il répondit au vicomte, qui l'écrasa de son air de dédain et de son regard foudroyant.
« Qui je suis ? Je suis Don Raymond de Vasconcelos, grand d'Espagne de première classe et commandeur de Malte. Pourquoi je me suis mêlé de vos affaires ? Parce que j'ai fait vœu d'empêcher, autant que cela dépendrait de moi, tous les duels le vendredi. Mais mon vœu ne m'oblige que pour ce jour-là. Et je vous tuerai demain, méchant hobereau que vous êtes, afin de vous apprendre comment les gens de votre espèce doivent parler à ceux de ma sorte. »
« Ah, c'est ainsi !» s'écria le vicomte exaspéré.
« Eh bien moi, monsieur le grand d'Espagne, moi qui n'ai pas fait vœu, je m'en vais vous tuer tout de suite. »
En ce moment, Raoul intervint.
« Vous m'appartenez, » dit-il au vicomte, « et si mon épée ne trompe pas ma main, je crois que vous ne tuerez personne à l'avenir. »«
Venez donc, » fit d'Aubigny, « à vous d'abord, mais ensuite à monsieur. » Et il désigna le commandeur. Ce dernier tira froidement sa montre. « Il est 11h30, » dit-il. « Encore une fois, je vous le demande. Attendez pour croiser le fer que minuit est sonné, car alors nous ne serons plus dans la nuit du vendredi, mais dans la journée du samedi. »
Ni Raoul ni le vicomte ne répondirent, et comme Don Raymond leur laissait le passage libre, ils sortirent précipitamment des salons.
D'Aubigny se retourna.
« Je vous retrouverai, » cria-t-il au commandeur.
« Vous n'aurez pas de peine à me retrouver, » répondit celui-ci.
« Car je ne vous quitterai pas. »
Et en effet, il sortit en même temps que les deux rivaux. Raoul, en traversant l'antichambre, fit signe à Jacques de l'accompagner. Le valet laissa tomber le cornet et l'aider dont il allait se servir et suivit son maître. Don Raymond marchait derrière eux.
« Prends une torche, » dit Raymond à Jacques au moment où il franchissait le seuil de la porte cochère.
Jacques arracha une résine embrasée des mains du porteur de chaise à qui il jeta un louis en échange. Les quatre hommes descendirent la rue Saint-Honoré dans la direction du Palais-Royal. Arrivés là, Raoul et le vicomte, qui marchaient en tête, se jetèrent sur la droite et gagnèrent une ruelle étroite et obscure situé sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la rue de Rivoli. Un réverbère à demi éteint combattait si mal l'obscurité que le chevalier s'applaudit fort d'avoir pensé à munir son valet d'un flambeau. Les deux hommes s'arrêtèrent et jetèrent bas leurs habits. Jacques fut placé sous l'avant d'une porte basse.
« Oh la torche !» lui dit son maître.
Puis le vicomte et le chevalier mirent l'épée à la main. À 10 pas d'eux, Don Raymond, appuyé contre la muraille, s'apprêtait à regarder le combat.
« Messieurs » cria-t-il une dernière fois, « prenez garde, c'est aujourd'hui vendredi. Vendredi, jour fatal. »
« Au nom du diable !» murmura Raoul. « Oiseau de mauvais augure, taisez-vous »
Don Raymond entendit le blasphème du chevalier et fit par deux fois le signe de la croix. Ensuite, il croisa ses bras sur sa poitrine et il attendit. Jacques, ému de la scène qui se préparait, tenait la torche d'une main tremblante. Par moments, la résine enflammée projetait une lueur ardente, puis la flamme, en s'abaissant, se noyait dans la fumée et les ténèbres devenaient opaques. Les lèvres blanches du commandeur semblaient murmurer une prière. Raoul et le vicomte engagèrent le fer et se précipitèrent l'un sur l'autre avec une furie égale. Il eût été impossible d'abord de prévoir auquel resterait l'avantage. L'habileté des deux hommes à l'escrime était à peu près la même. La force musculaire de M. d'Aubigny surpassait celle de Raoul, mais le chevalier conservait un sang-froid qui manquait à son adversaire. À mesure que les épées tournoyaient, renvoyant en bleuâtres éclairs les lueurs intermittentes de la résine embrasée, le commandeur se rapprochait du lieu du combat comme entraîné par une fascination irrésistible.
Le duel continuait. Tout à coup, l'arme du vicomte, heurtant à faux celle de Raoul, se brisa à 10 pouces de la poignée. M. d'Aubigny fit un saut en arrière.
« N'ayez pas peur, » dit le chevalier d'un ton méprisant. « Je tue volontiers les gens, mais je ne les assassine pas. »
En même temps, il appuya la lame de son épée sur son genou et la brisa à la même hauteur que celle du vicomte.
« Ce qu'a commencé l'épée, » s'écria-t-il alors, « le poignard peut l'achever. »
Et il marcha sur M. d'Aubigny. La lutte recommença avec une physionomie plus effrayante que l'instant d'auparavant. Les deux hommes combattaient corps à corps. Leurs bras s'entrelaçaient, leurs poitrines haletantes se touchaient. Cela dura 1 minute à peu près. Puis on entendit un grand cri que suivit un bruit sourd. Le vicomte, la poitrine trouée, venait de s'affaisser sur le pavé fangeux. La torche s'échappa des mains de Jacques. En ce moment, minuit sonnait à l'horloge du palais royal. Le commandeur poussa un long soupir.
« Ah ! » murmura-t-il d'une voix indistincte. « Comme cette ruelle ressemble à la Strada Stretta. Mon Dieu, ayez pitié de moi !»
Puis après avoir prononcé ces paroles étranges, il roula à son tour sur le sol, comme s'il eût été frappé par une épée invisible. Il était sans connaissance. Cependant, le vicomte respirait encore. Il se souleva à demi et dit à Raoul ces mots qu'entrecoupaient des flots de sang jaillissant de ses lèvres.
« Je crois que je suis un homme mort, mais si j'en reviens, c'est une partie à recommencer. »«
Quand vous voudrez, ou plutôt quand vous pourrez, » répondit le chevalier. Le vicomte retomba en arrière et ne donna plus signe de vie. Raoul remit au fourreau son tronçon d'épée, ramassa son habit et dit à Jacques « Allons-nous-en, nous n'avons plus rien à faire ici. » Mais à peine avait-il parlé qu'une main se posa sur son épaule et qu'une voix lui dit « Monsieur le gentilhomme, vous êtes mon prisonnier. Rendez-moi, s'il vous plaît, votre épée. » Raoul regarda autour de lui avec un étonnement facile à comprendre. Un exempt le tenait au collet et une douzaine de soldats du guet lui barraient le passage.
« D'où diable sortez-vous donc, monsieur l'exempt ?» demanda le chevalier. « Je ne vous ai ni vu ni entendu venir. »«
Je le crois bien, » répondit l'exemple avec un sourire. « Vous étiez trop occupé tout à l'heure pour faire attention à moi. »«
Eh bien, » continua Raoul, « puisque vous voilà, et afin que votre présence serve à quelque chose, dites donc à vos gens de ramasser ce pauvre corps que voici sur le pavé et de le porter en un endroit où il puisse recevoir des soins. » Et le chevalier désignait M. d'Aubigny, dont le sang formait déjà un petit ruisseau au milieu de la ruelle.
L'exempt fit un signe. Deux soldats du guet soulevèrent aussitôt le vicomte. L'exempt s'approcha de lui et le regarda au visage.
« Maintenant, reprit Raoul, maintenant que vous avez satisfait aux devoirs de l'humanité, rien ne nous empêche d'aller, vous de votre côté et moi du mien. Monsieur l'exempt, je vous souhaite une bonne nuit. » Et le chevalier fit mine de s'éloigner.
« Qu'est-ce que vous faites donc ? » demanda l'exempt. « Vous le voyez bien, je m'en vais. »
« Plaisantez-vous ?
Je ne plaisante jamais. »«
Mais, monsieur, j'ai eu l'honneur de vous annoncer que vous étiez mon prisonnier. »«
J'ai parfaitement entendu. »«
Eh bien ? » ?»«
Eh bien, j'ai l'honneur de vous affirmer que vous vous êtes trompé en me disant cela. »«
Monsieur, cette raillerie me semble de mauvais goût. »«
Monsieur, cette insistance me paraît déplacée. »«
Vous allez me suivre à l'instant même, » dit l'exemple avec un commencement d'irritation.
« Je ne crois pas. »
« Vous ne croyez pas ?»«
Non, » répondit Raoul, dont le calme ne se démentait point.
« Me contraindrez-vous donc à employer la force ?»«
Je vais simplement vous prouver que je suis moins votre prisonnier que vous ne le pensez. »«
Ah, par exemple, je suis curieux de voir cela. »«
Voyez-le donc. » Et Raoul, fouillant dans la poche du côté de son habit, en tira un portefeuille que nous connaissons, exhiba un parchemin qui a déjà joué un rôle dans cette histoire et le tendit à l'exemple. Le contenu de ce parchemin commençait, on s'en souvient, par ces mots. « Nous, Philippe d'Orléans, par la grâce de Dieu, régent de France, à tous ceux qui, ces présentes, verront, mandons et ordonnons, etc., etc. » Il se terminait par ceci. « Défendons en outre, à qui que ce soit, et pour quelque motif que ce puisse être, d'inquiéter le dit chevalier de la Tremblay et de l'entraver dans ses actes et ses volontés. » Quoi qu'il ait fait, Il l'a fait par notre ordre et pour les moyens de notre service. »
Aussitôt que l'exemple eut pris connaissance de ce laisser-passer si explicite, son attitude devint humble et respectueuse. Il salua profondément Raoul et lui demanda ses ordres.
« Mes ordres ?» répondit le chevalier en remettant son parchemin dans sa poche. « Les voici. La ruelle dans laquelle nous nous trouvons a deux issues, l'une à droite et l'autre à gauche. Je vais à droite, tournez à gauche. Bonsoir, messieurs. »
L'exemple s'inclina de nouveau, fit faire volte-face à sa troupe et s'éloigna avec elle dans la direction indiquée.
« Partons, » dit Raoul à Jacques dès que les pas des soldats du guet eurent cessé de se faire entendre dans le lointain. Le maître et le valet se mirent en marche. Au bout d'une demi-minute, les pieds de Raoul heurtèrent le corps de Don Raymond.
« Encore un cadavre ? » murmura-t-il en se baissant pour examiner le visage du prétendu mort. Cet examen lui fit reconnaître le commandeur.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » se demanda le jeune homme.
« Don Raymond, j'en suis sûr, n'a croisé le fer avec personne.
Son cœur bat toujours. Sa respiration est libre. Il semble endormi. C'est étrange. Je n'y comprends rien.
Mais il est évident qu'on ne peut pas laisser un grand d'Espagne passer ainsi la nuit dans la rue, au pied d'une borne. »
Puis, après ce court monologue, il se tourna vers Jacques et lui dit « Fais le guet auprès du corps de ce gentilhomme, tandis que je m'en vais chercher une chaise à porteur dans laquelle nous l'emmènerons. »
« Oui, monsieur le chevalier, » répondit Jacques, et le maître s'éloigna. Pendant l'absence de Raoul, aucun être vivant ne vint traverser les ténèbres silencieuses de la ruelle dans laquelle avait eu lieu le combat. Le chevalier ne tarda guère à revenir. Jacques et les porteurs placèrent Don Raymond dans l'un des angles de la chaise que ramenait Raoul, et ce dernier s'assit à côté du commandeur.
« Rue du Croissant, » dit-il à Jacques. « Sers de guide à ces braves gens. »
Monsieur de la Tremblay, par suite des nécessités de sa position, nécessités qui deviendront plus manifestes pour nos lecteurs à mesure que notre récit marchera, avait 4 ou 5 logements dans Paris. L'adresse qu'il venait de donner à Jacques était celle de l'un de ces logements. Aussitôt arrivé, l'un des porteurs, avec l'aide de Jacques, monta le commandeur dans l'appartement de Raoul. On l'étendit tout habillé sur un lit, et monsieur de la Tremblay, épuisé des fatigues et des émotions de la journée, alla chercher un peu de sommeil. Le lendemain, de très bonne heure, Jacques entra chez son maître. Raoul, qui dormait encore et qui ne s'arrangeait point de ce brusque réveil, le reçut assez mal. Jacques laissa passer l'orage sans répondre un seul mot, puis il dit « Monsieur, c'est votre hôte de cette nuit qui vient de s'éveiller et qui sollicite avant son départ l'honneur de vous remercier. »
« Ah ! » fit Raoul. « C'est différent. Je me lève. »
Au bout d'un quart d'heure à peine, le chevalier alla rejoindre Don Raymond dans un salon où Jacques l'avait fait entrer et qui rappelait par le luxe de son ameublement le logis mystérieux de la rue du Cherche-Midi. Les premières paroles du commandeur furent celles-ci.
« Vous vous êtes montré cette nuit, monsieur, brave, comme un bon gentilhomme et charitable comme un bon chrétien. Permettez-moi de vous dire que je vous suis tout acquis et qu'à partir de ce jour, en quelque situation que vous vous trouviez, vous pouvez compter sur Don Raymond de Vasconcelos et disposer absolument de son épée et de son crédit.
« Monsieur, répondit Raoul, ce que j'ai fait pour vous est tout simple et ne vaut pas même un remerciement. N'en parlons donc plus, je vous prie. « Comment vous trouvez-vous ce matin ?»«
Le mieux du monde, » fit le commandeur.
« À quel motif attribuez-vous votre subit évanouissement d'hier soir ?»
Don Raymond sembla se troubler.
« J'ose attendre de votre courtoisie, » murmura-t-il, « que vous ne me questionnerez point à ce sujet, qui me rappelle de douloureux souvenirs. » Un geste de Raoul exprima son adhésion à la prière du commandeur. Ce dernier reprit aussitôt comme pour placer la conversation sur un autre terrain.
« Savez-vous le nom de votre adversaire ?»«
Oui, » répondit Raoul. « Il s'appelle le vicomte d'Aubigny. »«
Vit-il encore ?»«
Je l'ignore. »«
Sa blessure est grave, n'est-ce pas ?»«
Je le crois. »
Il y eut un instant de silence, puis le commandeur ajouta. « Vous l'avez frappé un vendredi, avant minuit. Priez Dieu pour qu'il ne meure pas de votre coup d'épée. »«
Pourquoi donc ?» demanda Raoul avec surprise.
« Parce que le vendredi porte malheur, et que le sang qui coule un vendredi retombe sur la main qui le verse. »
murmura Don Raymond,
d'un ton si grave et si convaincu que le chevalier ne put s'empêcher de frissonner en l'écoutant. « Je demeure rue Saint-Dominique, tout à côté de la rue Saint-Guillaume, » poursuivit le commandeur. « N'oubliez point cette adresse, je vous en prie, monsieur le chevalier, et comptez bien que vous m'obligerez en disposant de moi. » Puis Don Raymond prit congé de Raoul, qui éprouva une sorte de soulagement en n'ayant plus sous les yeux cette figure étrange et sombre.
Chapitre 26. Le mariage.
Presque immédiatement après l'entretien auquel nous venons d'assister, Raoul gagna l'hôtel de Tiange. Le marquis l'attendait. Monsieur de la Tremblay lui raconta les événements de la soirée et de la nuit précédente. « Diable ! Vous donnez comme cela des coups d'épée aux gens du Palais-Royal ? Et vous allez choisir précisément ce jeune vicomte, dont le régent s'est entiché depuis quelque temps. Savez-vous bien, mon cher chevalier, que voilà qui n'arrange pas nos affaires ?»«
Je ne le sais que trop, pardieu, » répondit Raoul.
« Mais soyez tranquille, j'ai mon plan, et nous nous en tirerons. »«
À la bonne heure, » dit alors monsieur de Tiange. « Seulement, dépêchez-vous. »
Raoul fit un geste qui voulait dire « Rapportez-vous-en donc à moi. » Puis il reprit. « Parlons d'autre chose maintenant. Avez-vous pensé à ce dont je vous ai parlé ?»«
À propos de votre mariage ?»«
Oui, mais certainement j'y ai pensé. »«
Eh bien ?»«
Eh bien, tout est prêt. La chapelle est en bon ordre. Je sais presque par cœur la messe de mariage. Et hier, après votre départ, j'ai essayé les vêtements sacerdotaux qui me vont à miracle. »
« Marquis, s'écria Raoul en riant et en frappant sur l'épaule de monsieur de Tiange, si le bon Dieu vous rend justice, vous mourrez d'un coup de tonnerre.
« Pourquoi non ? Répondit le marquis. « J'aimerais croiser mon épée avec la foudre. Ce serait un adversaire digne de moi. »
« À quelle heure la cérémonie ? Demanda monsieur de la Tremblay.
« C'est à vous de fixer cela.
« Eh bien, à 11 heures, n'est-ce pas ?
« Soit, vous serez attendu.
J'oubliais une chose.
« Laquelle ?
Il nous faut des témoins.
« Mon intendant et mon maître d'hôtel vous en serviront. « Ils seront pour la circonstance métamorphosés en vieux gentilshommes alliés de votre famille.
« À merveille ! Vous avez une imagination brillante et inépuisable.
« Et si vous n'étiez beaucoup trop grand seigneur pour devenir gratte-papier, « vous auriez pu faire des romans plus beau que ceux de Mademoiselle Soudéry.
À demain, marquis.
À demain, mon cher chevalier. »
Raoul, en quittant monsieur de Tiange, se rendit à l'hôtellerie du roi Salomon, où Jeanne l'attendait avec impatience. La jeune fille était triste. Sa nuit avait été visitée par des songes funestes et de sombres pressentiments. Il lui semblait qu'il devait être arrivé malheur à son fiancé et qu'elle-même se trouvait sous le coup de quelque événement sinistre. Dans ses rêves, elle avait vu Raoul étendu à ses pieds, tout sanglant. Puis elle s'était sentie mourir. Un froid glacial et douloureux avait peu à peu envahi ses veines. Son cœur avait cessé de battre. Une paralysie complète s'était emparée de ses membres pour les priver de tout mouvement, de ses lèvres pour les empêcher d'articuler une seule parole. Des voix avaient murmuré autour d'elle. « Elle est bien morte. C'est fini. » Des mains officieuses l'avaient couchée dans un cercueil, et ce cercueil s'était refermé. On était venu la prendre pour la porter dans une chapelle et chanter l'office des morts sur sa dépouille inanimée. Cette chapelle, hélas, était celle où devait le lendemain se célébrer son mariage. Une cérémonie allait s'y accomplir, en effet. Seulement, au lieu d'être une noce, c'était un enterrement. Un tombeau, voilà le lit nuptial où les deux fiancés devaient se réunir. Jeanne se réveilla en sursaut, tremblante et baignée d'une sueur froide. Heureusement, le jour était proche, et les premières clartés de l'aube blanchissaient déjà le vitrage de la chambre à coucher. Jeanne parvint donc à dominer ses frayeurs superstitieuses. Mais nous le répétons, une incommensurable tristesse s'empara de son esprit jusqu'à l'heure de l'arrivée de Raoul. Au moment où son fiancé franchit le seuil du passage secret, elle courut à lui, et aussitôt, les appréhensions, les craintes, les pressentiments s'effacèrent de son âme, comme au lever du soleil s'évaporent les brumes du matin. Nous n'entreprendrons point de suivre les deux amants dans les charmantes divagations d'un mutuel amour. Il faudrait une main plus habile que la nôtre
pour faire résonner dignement cette harpe du cœur. Leur longue et tendre causerie fut coupée d'ailleurs par une distraction délicieuse. Samuel apporta un immense coffre d'ébène enrichi des plus merveilleuses incrustations. Ce coffre renfermait les étoffes et les parures de la corbeille de mariage. C'étaient des robes d'une splendeur inouïe, des dentelles et des guipures d'une beauté sans rivale, des bijoux dont une reine aurait été jalouse. Qu'on juge des extases et du délire de la jeune fille en face de tous ces trésors. À chaque découverte nouvelle, à chaque objet sorti du coffre inépuisable, Jeanne frappait des mains et manifestait une joie enfantine que Raoul ne pouvait se défendre de partager, quoiqu'il dît parfois avec une gravité douce « Pourquoi vous réjouir ainsi, cher enfant? Qu'avez-vous besoin de tout cela? Tout cela ne vous rendra pas plus belle ?»« Oh !» répondait Jeanne, « laissez-moi donc admirer mon ami et me trouver heureuse de voir à quel point vous m'aimez. » Le soir arriva. Comme la veille, Raoul prit congé de Jeanne en lui disant « à demain pour ne plus nous quitter. » La jeune fille ne répondit pas, mais son silence et sa rougeur parlèrent éloquemment pour elle. Enfin, le lendemain arriva. À 10 heures du matin, Raoul entrait à l'hôtellerie du roi Salomon. Il était vêtu avec une simplicité élégante et du meilleur goût. Un habit de velours gros bleu couvrait à demi une veste de satin blanc, brodée d'argent. Une culotte gris perle et des bas de soie blanc complétaient son costume. Honorine venait d'achever la toilette de Jeanne. Une robe de taffetas blanc dessinait les gracieux contours du buste de la jeune fille. Les fleurs virginales du bouquet symbolique s'enlaçaient à ses beaux cheveux blonds. De chaque côté de son cou charmant flottaient les longues barbes d'un voile de dentelle d'Angleterre. Cette parure si fraîche et si simple donnait un nouveau lustre à sa beauté splendide et lui servait en quelque sorte de cadre. Monsieur de la Tremblay fut ébloui et tomba aux genoux de Jeanne. « Ma reine, s'écria-t-il, on doit vous adorer. »« Aimez-moi seulement, répondit la jeune fille avec un sourire. Je ne vous en demande pas plus. » Et elle tendit la main à son fiancé pour le relever. Raoul, toujours agenouillé, prit cette main et y colla ses lèvres. « Tout à l'heure, continua Jeanne, vous m'appeliez votre reine, n'est-ce pas ? Ne l'êtes-vous point de mon cœur, de ma vie, de mes volontés, de tout mon être ? Obéissez-moi donc comme à une reine, et relevez-vous. » Raoul se releva aussitôt. Jeanne reprit. « Voilà de la soumission, c'est bien. Et comme la reine n'est point ingrate, elle offre son front à son fidèle sujet. Avons-nous besoin de dire que Monsieur de la Tremblay profita avec ardeur de la permission qui venait de lui être accordée ? Cependant, 10 heures et demie sonnèrent. « Venez, » dit Raoul, et il donna la main à la jeune fille. Mais au lieu de la mener, ainsi qu'elle s'y attendait, du côté de l'issue secrète, il la conduisit dans la salle à manger, en face de l'un des panneaux de la boiserie. Il toucha ce panneau, qui tourna sur des gonds invisibles, et laissa voir les marches polies d'un large et magnifique escalier dans lequel les deux jeunes gens s'engagèrent. Cet escalier aboutissait à un somptueux vestibule qui lui-même ouvrait sur une cour ses 3 portes vitrées. En face de ce vestibule stationnait un vis-à-vis absolument neuf et dont rien n'égalait la beauté. Les panneaux, bleus de ciel et or, s'enrichissaient des sculptures allégoriques les plus délicates. L'intérieur était doublé en satin blanc brodé à la main. Les cercles des roues étaient en argent. Les chevaux, d'une blancheur de lait et à la longue crinière nattée avec des rubans bleus et argent, piaffaient et hennissaient d'un air d'impatience et de juvénile ardeur, quoique tenus vigoureusement en main par un gros cocher poudré à frimas sous son tricorne galonné et vêtu d'une houppelande écarlate et or. 3 grands laquais, debout auprès de la portière, étaient revêtus d'une livrée semblable. « Dieu, mon ami, quel magnifique équipage !» s'écria Jeanne avec admiration. « Vous trouvez, cher enfant ? Le carrosse, les chevaux et les livrées me semblent d'un goût exquis. Savez-vous à qui tout cela appartient ?»« Il y a des armoiries sur les panneaux, » répondit Raoul. « Ces armoiries vous diront peut-être ce que vous voulez savoir. » « Oh, je ne suis pas forte en blason. Regardez toujours. Sur le panneau du milieu étincelait l'écusson des chambards, mi-parti de celui des La Tremblay, sous les rameaux héraldiques d'un lambrequin de chevalier.
« Que veut dire cela ? » demanda la jeune fille interdite.
« Cela veut dire, répondit Raoul, que cette voiture est à vous. »
En même temps, il fit un signe. Les laquais s'empressèrent aussitôt. L'un d'eux ouvrit la portière. Le second déploya le marchepied. Le troisième présenta à Jeanne son poing ganté sur lequel elle s'appuya pour monter en voiture. Raoul s'assit à côté d'elle et le carrosse partit au trot le plus rapide de ses deux chevaux de race. Au bout de quelques minutes, il s'arrêtait en face du péristyle de l'hôtel de Tiange. Un aéduc gigantesque attendait sur le perron. Aussitôt que Raoul et Jeanne furent descendus de carrosse, il les salua profondément et marcha devant eux d'un pas grave et solennel pour leur indiquer le chemin. Les deux jeunes gens arrivèrent à sa suite jusqu'à la porte du grand salon de l'hôtel. Là, il s'inclina, fit deux pas de côté pour les laisser passer et referma la porte derrière eux. Pendant un instant, Jeanne et Raoul restèrent seuls. Ni l'un ni l'autre ne parlaient. Jeanne était trop émue pour pouvoir prononcer un seul mot. Quant à Raoul, une involontaire préoccupation s'était emparée de lui au moment où il se trouvait ainsi face à face avec l'action détestable qu'il allait commettre. Action que sa conscience et les lois flétrissaient également du nom de crime. La porte du salon se rouvrit. L'aéduc parut sur le seuil et annonça successivement « Monsieur le marquis d'Orbesson, monsieur le vidame de Pamiers. » En même temps, deux personnages, d'une originalité incontestable, firent dans le salon une entrée triomphante. Le premier de ces deux personnages, le soi-disant marquis d'Orbesson, était doué d'une haute taille et d'une respectable obésité. Par-dessus son habit jonquille et sa veste de satin clair de lune, il portait une grande pelisse de velours grenat, galonnée d'or et fourrée d'hermine, que soulevait d'une façon comique le fourreau de sa petite épée de cour. Sa perruque, soigneusement poudrée, faisait ressortir les teintes ardentes de son visage, dont les joues, le nez et le front affectaient uniformément la couleur cramoisie. Ce visage, ainsi enluminé sans doute par les joies de la bonne chère et le culte de la dive bouteille, faisait l'effet, entre la perruque blanche et la cravate de dentelle, d'une cerise dans la neige. Les traits de ce marquis semblaient exprimer d'ailleurs une jovialité réjouissante et assez spirituelle. Il s'appuyait à la manière des financiers de comédie sur une haute canne à pommes d'or. Son acolyte, le vidame de Pamiers, n'était guère moins grand que lui, mais incomparablement plus maigre. Ses membres débiles et presque étiques flottaient dans un vaste juste au corps en velours de couleur vert de mer brodé en argent. Il portait des bas roulés à coins d'argent et des souliers à talons rouges et à boucles d'une largeur extravagante. Ses yeux étaient ternes et sa physionomie ne disait absolument rien. Malgré cette apparence peu séduisante, le vidame se donnait en marchant des airs de grâce et de grandeur à mourir de rire, et il paraissait avoir la plus excellente et la plus flatteuse opinion de son mérite personnel. Tout autre que Jeanne n'aurait point manqué de trouver au moins étrange les allures et les façons de ces prétendus grands seigneurs, véritables marquis de Mascarille et vicomtes de Jodelet. Mais Jeanne n'avait jamais vu de grand seigneur, et d'ailleurs, il lui manquait la liberté d'esprit nécessaire pour observer, et surtout pour se rendre compte de ses observations. Messieurs d'Orbesson et de Pamiers n'étaient autres que l'intendant et le maître d'hôtel du marquis. Le premier, doué d'un esprit assez brillant et d'une grande facilité d'élocution, avait été chargé de jouer un rôle de quelque importance dans la comédie qui se préparait. Quant au second, complètement nul une fois sorti de ses attributions domestiques, il devait être un figurant plutôt qu'un acteur réel. Raoul, à l'apparition des personnages hétéroclites que nous venons de décrire, se mordit les lèvres à deux reprises, afin de comprimer une envie de rire presque irrésistible qui s'emparait de lui. Il y parvint cependant, et prenant Jeanne par la main, il fit quelques pas au-devant des nouveaux venus. Le marquis d'Orbesson s'empara de l'autre main de Jeanne, et, après l'avoir portée galamment à ses lèvres, il dit à Raoul « Par la sang Dieu, mon beau neveu, présente-moi donc à cette charmante enfant,
que je serais fort heureux, tout à l'heure, de pouvoir appeler ma nièce.
« Jeanne, dit alors le chevalier, j'ai l'honneur de vous présenter le marquis d'Orbesson, mon oncle. » Puis il ajouta, « Mon cher oncle, j'ai l'honneur de vous présenter mademoiselle de Chambard, bientôt madame de la Tremblay. »
« Je suis franc, dit le vieux marquis, et quelquefois même, à ce qu'on assure, un peu brutal. Quand j'ai su, mon beau neveu, que tu faisais un mariage d'amour, après avoir si souvent refusé tant de riches héritières que je te proposais, je l'avoue, mon neveu, j'ai pesté contre toi. Je craignais le bandeau trompeur du petit Cupidon. Je tremblais à la pensée d'une union indigne de ton état dans le monde et du nom que tu portes. Mais depuis que j'ai vu mademoiselle, depuis que je me suis convaincu par moi-même qu'il n'y avait rien d'exagéré dans ce que tu m'avais fait dire de ce trésor d'innocence, de grâce et de beauté, reçois mes compliments, cher neveu, reçois mes félicitations sincères. » Et l'oncle accentua tous ses éloges par une vigoureuse poignée de main donnée à Raoul. Le vidame de Pamiers écoutait ce qui se disait et hochait à chaque instant la tête en signe d'approbation. Raoul, malgré son prodigieux sang-froid, trouvait la situation trop prolongée pour ne pas devenir embarrassante. La poignée de main qu'il venait de recevoir ne l'avait que médiocrement flatté. Il redoutait, si la comédie n'arrivait bien vite à sa fin, que son oncle de circonstance ne jugea convenable de passer à l'accolade. Le beau visage de Jeanne se couvrait d'une rougeur modeste à chacun des compliments que lui décochait le marquis. « Est-ce que tout cela va durer longtemps encore ?» se demandait le marquis, et il maudissait intérieurement les retards de M. de Tiange. Enfin, l'impatience de Raoul eut un terme. La porte du salon se rouvrit pour la seconde fois, et l'aïduc vint annoncer que tout était prêt et que M. l'aumônier attendait les futurs époux pour la cérémonie. Raoul saisit le bras de Jeanne et l'entraîna vers la chapelle. Cette chapelle, construite par les soins du père du marquis de Tiange, homme éminent dont la dévotion éclairée égalait l'impiété aveugle de son fils, était petite, mais décorée avec un luxe extrême et un goût infini. Les murailles, ou plutôt leur revêtement en pierre polie, avaient été fouillées par le ciseau d'un habile artiste. L'autel était en marbre blanc. Un tapis de velours rouge s'étendait sur les dalles. Une lampe en vermeil, d'un travail exquis, pendait à la voûte, suspendue à une chaîne d'argent. Un magnifique tableau du grand peintre Le Sueur faisait l'ornement du maître-autel et quelques autres peintures très remarquables aussi, quoique d'un ordre inférieur, étincelaient comme autant de pierres précieuses dans des cadres d'une richesse inouïe. Au moment où les fiancés et leurs témoins entrèrent dans la chapelle, le faux prêtre, agenouillé dans une attitude de piété menteuse, semblait prier avec recueillement. Au bruit des pas des nouveaux venus, il quitta cette posture hypocrite et se retourna. Raoul eut peine à le reconnaître. Monsieur de Tiange, en effet, s'était grimé avec le talent d'un comédien consommé. Nous avons dit précédemment qu'il avait 40 ans et que sa figure était fraîche et fleurie. Eh bien, il était parvenu à se donner l'aspect d'un homme de plus de 60 ans. Quelques boucles de cheveux argentés, s'échappant de dessous une étroite calotte de velours noir, donnaient à son visage un caractère d'onction patriarcale et évangélique. Un cercle de bistre tracé au-dessous des yeux et quelques rides dessinées à propos avaient achevé cette métamorphose. Monsieur de Tiange s'était déjà revêtu des vêtements sacerdotaux. Il adressa à Raoul et à Jeanne une sorte de petit discours fort paternel et tout empreint de morale évangélique. Ensuite, il monta à l'autel et il eut l'audace cynique de commencer et de poursuivre jusqu'à la fin une parodie infâme de la célébration des saints mystères. Raoul se sentait épouvanté tandis que s'accomplissait sous ses yeux ce monstrueux sacrilège dans lequel il avait sa part. À chaque instant, il lui semblait que la colère de Dieu allait s'éveiller enfin et foudroyer les misérables qui profanaient ainsi un autel consacré. 10 fois il fut au moment de crier à son complice « Arrêtez !» Mais Dieu fut clément jusqu'au bout, le tonnerre ne gronda point, et Raoul rit en lui-même de ses terreurs involontaires. La messe achevée, M. de Tiange s'approcha de Jeanne et de Raoul. « Chevalier de la Tremblay, » demanda-t-il d'un ton grave, « prenez-vous cette femme pour épouse ?»« Oui, » répondit vivement Raoul. « Jeanne de Chambard, continua le faux prêtre. « Acceptez-vous cet homme pour époux ?»«
Oui, » murmura la jeune fille.
« Vous êtes unis devant Dieu, » ajouta Monsieur de Tiange. « Allez, et soyez bénis. » De douces larmes coulaient des grands yeux de Jeanne. Un feu sombre et presque infernal étincelait dans ce drap houleux. Le sacrilège était consommé. La pauvre victime était tombée dans le piège infâme qu'elle ne soupçonnait même pas.
Chapitre 27. L'espion.
Nous n'avons point à parler ici des premiers jours de l'union de Raoul et de Jeanne. La jeune fille croyait fermement, nous le savons, à la sainteté de son mariage, et elle s'abandonnait avec délices et sans remords aux tendres ivresses de la lune de miel. Raoul, très épris de celle qu'il venait de tromper d'une manière infâme, semblait vouloir la dédommager par le bonheur présent de toutes les douleurs qu'il lui réservait dans l'avenir. Il paraissait le meilleur des époux, et c'est à peine s'il quittait sa jeune femme une ou deux heures tous les jours. Enfin, Jeanne, en entrant dans le sentier si souvent aride de la vie conjugale, semblait y faire ses premiers pas sur des roses effeuillées. Elle avait été définitivement installée par Raoul dans l'appartement que nous avons décrit précédemment et dont les deux issues ouvraient l'une dans la chambre des mages de l'hôtel du roi Salomon et l'autre dans une rue contiguë. Monsieur de la Tremblay semblait s'être condamné avec sa femme à une réclusion presque absolue. À peine de loin en loin, le soir, menait-il Jeanne se promener en carrosse, ou bien s'enfermait-il tous les deux dans la plus sombre des loges grillées de l'opéra? La jeune femme avait bien manifesté quelque étonnement de cette réclusion et du mystère dont Raoul se plaisait à entourer leur habitation et leur démarche. Mais Raoul lui avait répondu qu'il était obligé de prendre momentanément toutes ses précautions parce qu'il s'était imprudemment laissé compromettre dans une intrigue politique et qu'il savait, de science certaine, que la Bastille s'ouvrirait pour lui s'il n'évitait pendant quelque temps le grand jour. Du reste, avait-il ajouté, cette situation ne pouvait durer, et sa rentrée en grâce était des plus prochaines. Jeanne n'avait point insisté. Raoul, qu'elle aimait uniquement et par-dessus tout, était toujours auprès d'elle. Que lui fallait-il de plus? Sa maison était des plus modestes et se composait d'Honorine et de Jacques. Ce dernier, à qui Raoul accordait, depuis les derniers événements, une confiance absolue, avait été élevé par lui à la dignité de valet de chambre, de maître d'hôtel et d'intendant de Madame de la Tremblay. Quant aux beaux carrosses et aux grands laquais, ils ne servaient, nous le répétons, que pour les promenades nocturnes et les soirées passées à l'opéra. Cet état de choses ne pouvait subsister plus longtemps sans d'importantes modifications. Raoul ne dépendait point entièrement de lui-même. Il n'avait pas le droit de disposer de sa vie à sa fantaisie. Sur lui reposaient de graves intérêts que les joies de la lune de miel ne lui avaient fait déjà que trop oublier. De mauvaises nouvelles étaient parvenues jusqu'à lui. D'abord, le vicomte d'Aubigny, au lieu de mourir de sa blessure, se trouvait au contraire en pleine voie de guérison et ne passait point une heure sans renouveler de terribles serments de vengeance contre celui qui l'avait blessé et dont, heureusement pour le chevalier, il ignorait encore le nom. Mais cette ignorance devait être de courte durée, et à coup sûr, aussitôt que le vicomte pourrait quitter son lit, il apprendrait bien vite que son adversaire se nommait Raoul de la Tremblay. D'un autre côté, le régent, disait-on, avait pris fait et cause pour son officier et trouvait mauvais que qui que ce soit eût eu l'impudente audace de s'attaquer à quelqu'un de sa maison. Enfin, et c'était là le pis, Antonia Verdi, la belle italienne, la magicienne aux puissantes évocations, avait reparu au palais royal, et après une nouvelle séance de sorcellerie diabolique, sa faveur avait semblé prendre une prodigieuse extension. Tout ceci, on en conviendra, n'était rien moins que rassurant. Raoul se dit qu'il fallait parer au mal sans perdre une minute et par tous les moyens possibles. Pour cela faire, il était indispensable de reconquérir un empire absolu sur l'esprit du régent avant le complet rétablissement du vicomte d'Aubigny. Il était de plus aussi complètement nécessaire de ruiner de fond en comble le crédit naissant de l'Italienne, ou tout au moins de se faire d'elle une amie et une alliée. Ce double résultat aurait dû être obtenu depuis longtemps. Raoul ne se le dissimulait point. Mais comme Hannibal jadis, il s'était laissé endormir dans les molles délices de Capoue. Il s'agissait de réparer le temps perdu. Raoul se mit à l'œuvre sur le champ. Il fouilla dans les armoires si bien garnies de la chambre des mages, et il en tira un costume qui devait lui donner complètement l'apparence d'un jeune commis marchand, fort soigneux de sa personne. Ce costume se composait d'un habit de drap brun sur une veste olive, d'une culotte grise, de bas blancs à côtes, d'une petite perruque presque sans poudre, d'un chapeau de feutre noir à large bord et de souliers cirés à l'œuf et munis de larges boucles argentées. Raoul, ainsi travesti, gagna le cabaret célèbre de l'illustre Ramponneau. La foule affluait dans les vastes salles de l'établissement. Gardes françaises à la rouge trogne et à la moustache fièrement retroussée, commis en maraude et bourgeois en goguette, y sablaient à grands gobelets un joli vin d'Argenteuil, bleuâtre et acidulé, et réalisaient, en trinquant ensemble, le beau rêve de la fraternité universelle. Raoul s'assit près du comptoir et se fit servir un petit vin de liqueur des îles. Puis il parcourut les différentes parties du cabaret et sembla passer successivement en revue la figure de tous les habitués qui chantaient, buvaient et jouaient aux cartes ou aux dés. Sans doute, il ne rencontra point ce qu'il cherchait, car après avoir payé sa modeste dépense, il quitta Ramponneau et se dirigea du côté des Halles. Non loin de la pointe Saint-Eustache se trouvait un cabaret fort mal en renom, et dont presque tous les hôtes étaient plus ou moins bien connus des agents de monsieur le lieutenant de police. L'enseigne trompeuse de ce cabaret sentait pourtant d'une lieue sa mythologie galante. Cette enseigne portait en grosses lettres multicolores les mots suivants « À l'union de Mars et de Vénus ». Une porte bâtarde, étroite et basse, donnait accès dans l'intérieur de l'établissement. Raoul franchit le seuil de cette porte, mais avec une répugnance manifeste. C'est qu'en effet l'endroit dans lequel il entrait semblait hideux et sinistre, et les habitués ne l'étaient guère moins. On ne trouvait plus là, comme chez Ramponneau, de bonnes figures enluminées et épanouies, et un gros rire de bonne humeur. On n'y entendait plus les éclats d'une gaieté, sinon toujours décente, au moins presque toujours honnête. On y voyait des visages de mauvais augure, des physionomies farouches. Les rauques accents d'un langage inconnu y frappaient seuls l'oreille, avec les refrains de chansons tellement ignobles qu'on avait honte, en les écoutant, d'en comprendre le sens. Ce n'était ni un cabaret, ni une taverne, c'était un repère. Là, on buvait de l'alcool, en fumant, à l'imitation des Hollandais, des pipes en terre blanche à longs tuyaux. Au moment où Raoul entra, tout le monde leva la tête. Son costume simple mais propre faisait sensation. Le chevalier jeta autour de lui le même regard investigateur qui, chez Ramponneau, n'avait point amené de résultats satisfaisants. Il fut plus heureux cette fois, car il distingua aussitôt un individu de mine suspecte, auquel d'énormes moustaches noires et une longue balafre en travers du visage donnaient une apparence militaire. Cet individu, maigre, pâle et vêtu avec une pauvreté sordide, était adossé à l'un des angles de la pièce. Il fumait une pipe à large fourneau et vidait solitairement une petite mesure d'esprit de vin. Raoul alla droit à lui et le toucha du bout du doigt. « Hein ?» fit l'individu avec un grognement assez semblable à celui d'un dogue qu'on éveille. « Hein ? Qui êtes-vous et que me voulez-vous » Le chevalier ne répondit point à ces deux questions, mais il fit, avec la main droite, un geste rapide et bizarre, qui sans doute était un signe de reconnaissance et de ralliement. L'homme de mauvaise mine répondit aussitôt par un geste semblable, et Raoul s'attabla en face de lui. Alors s'engagea entre eux, et à voix basse, la conversation suivante. « C'est bien vous, n'est-ce pas ? » demanda Raoul. « Qui vous appelez Mathias Aubert, surnommé le Lynx ?»«
Oui, » répondit l'homme, « c'est bien moi. »«
Alors, vous êtes celui dont j'ai besoin, et je me servirai de vous. »
« Cela me rapportera-t-il quelque chose ? » fit l'étrange interlocuteur du chevalier.
« Cela vous rapportera beaucoup, » répliqua ce dernier.
« Alors, vous avez raison, je suis votre homme. De quoi s'agit-il ? Enlèvement, séquestration, coup de couteau ? Je vous préviens, avant d'entrer en pourparlers, que les coups de couteau sont fort chers. Il n'y en aura pas à donner. »
« Tant pis.
Mais on paiera aussi généreusement que s'il y en avait. »
« Tant mieux.
Voici ce dont il est question. Vous m'écoutez bien, n'est-ce pas ?»«
Religieusement.
Il me faut des renseignements sur une personne. »«
Vous les aurez, »
fit Mathias Aubert en tirant de sa poche un abominable petit portefeuille tout crasseux et en s'apprêtant à prendre des notes.
« Cette personne, » continua Raoul, « est une femme. »«
Très bien. Elle est italienne et se nomme Antonia Verdi. » Mathias parut évoquer des souvenirs à propos de ce nom, mais sa mémoire ne lui rappela rien, car il dit presque aussitôt « Continuez. »
« Antonia Verdi, » reprit le chevalier, « est une jeune et belle personne qui s'occupe de magie, de divination, et qui fait apparaître le diable. »«
Oh oh !» s'écria Mathias en riant.
« Depuis un mois, ou à peu près, » ajouta Raoul, « elle a été admise deux fois au Palais-Royal la nuit. » Et des scènes de sorcellerie ont eu lieu devant le régent.
Raoul s'arrêta.
« Est-ce là tout ce que vous savez ?» demanda Mathias.
« Oui.
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez. Si insuffisantes que soient vos indications, on marchera. Seulement, entendons-nous bien. Que voulez-vous savoir ?»«
Le plus possible. » »«
Ceci ne dit rien. Formulez vos questions par ordre, et on tâchera d'y répondre catégoriquement. »
« Eh bien, je veux savoir, premièrement, où demeure Antonia Verdi ? Deuxièmement, d'où vient-elle ? Troisièmement, quels sont ses antécédents ? Quatrièmement, depuis combien de temps est-elle arrivée à Paris ? Cinquièmement, quelle est sa manière de vivre ? Sixièmement, si elle a quelques ressources ? Septièmement, enfin, par qui elle a été introduite au Palais-Royal ?
« À la bonne heure !» dit Mathias en serrant le petit portefeuille sur lequel il venait d'écrire en quelque temps sous la dictée de Raoul. Puis il ajouta « Maintenant, abordons le côté le plus sérieux de la question. Vous voulez parler du paiement, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Je vous ai promis d'être large. » Mathias plissa ses deux lèvres et en laissa s'échapper un son prolongé qui peut s'orthographier à peu près ainsi.
« Wisht ?»
Qu'y a-t-il ? Demanda Raoul.
Il y a que pour moi, des promesses et rien sont absolument la même chose. Soyons positifs et je fonctionnerai. Sinon, non.
Il vous faut de l'argent d'avance ?
Oui.
Combien ?
Moitié du prix total.
Quel sera ce prix ?
25 louis.
Vous êtes défiant.
Qu'est-ce que vous voulez ?
J'ai été trompé si souvent.
Si je vous donne ce que vous demandez, quand vous mettrez-vous à l'œuvre ?
Sur le champ.
Et les renseignements dont j'ai besoin, quand les aurai-je ?
Dans 3 jours au plus tôt, dans 3 semaines au plus tard. Cela dépend des difficultés plus ou moins grandes que je rencontrerai dans mes recherches.
Voici 15 louis.
Merci.
Je vous en remettrai 15 autres en échange de vos réponses à mes questions.
Vous voyez que cela fait 30 louis au lieu de 25 que vous me demandiez.
« Vous faites bien les choses, » répondit Mathias. « Vous serez servi en conséquence. Où vous reverrai-je ? » ?»«
Ici, dans 4 jours à la même heure. »«
Ah, dans 4 jours.
Il n'est pas sûr que je puisse vous satisfaire entièrement, mais j'aurai quelque chose à vous dire. »
Puis, après l'échange des paroles que nous venons de rapporter, Raoul prit congé de son agent. Nous expliquerons plus tard à nos lecteurs comment il pouvait se faire que Monsieur de la Tremblay ne fut point connu de Mathias Aubert, auquel il s'adressait sans hésitation pour lui confier une mission d'espionnage. Nous ajouterons que si quelque chose pouvait sembler obscur et invraisemblable dans les premières parties de ce livre, ce quelque chose s'expliquera plus tard, et nous l'espérons à la satisfaction générale. Le soir du 4e jour, le chevalier revint au cabaret des Halles, placé sans doute par antiphrase sous la menteuse invocation de Mars et de Vénus. Mathias Aubert
était à son poste. L'énorme récipient rempli d'alcool et posé devant lui indiquait la florissante situation de ses finances. Évidemment, il était ivre. Mais cette ivresse, toute nerveuse, n'ôtait rien au calme de son intelligence et à la parfaite lucidité de ses raisonnements.
« J'ai toujours cru qu'il n'était pas bon de se vanter soi-même, » dit-il à Raoul aussitôt que ce dernier fut venu prendre place auprès de lui. « Mais aujourd'hui, je peux dire sans vanité que j'ai joliment gagné mon argent. »
« Vous avez réussi dans vos recherches ?» demanda le chevalier.
« Pardieu, est-ce que Mathias Aubert, surnommé le lynx, ne réussit pas toujours ?»«
Vous avez là sans doute le résultat de vos observations ?»«
Oui, donnez. »
Mathias tendit à Raoul un rouleau de papier soigneusement cacheté en disant
« Je suis homme de conscience, monsieur, et j'ai voulu faire les choses aussi grandement que vous. J'ai donc fait mettre honnête et rédiger mes notes par un de mes amis, écrivain public du plus rare mérite et qui pourrait bien, un jour ou l'autre, entrer à l'académie. Ça m'a coûté un louis, ni plus ni moins, mais c'est un bien joli travail. Du reste, vous allez en juger. »
Raoul rompit le cachet des papiers que Mathias venait de lui remettre et lut ce qui suit. Rapport présenté à Monsieur le chevalier Raoul de la Tremblay au sujet d'une personne disant se nommer Antonia Verdi. Raoul interrompit sa lecture.
« Vous me connaissez ? » s'écria-t-il.
« Dame, répondit Mathias,
puisque je travaillais pour votre compte, j'étais bien aise de savoir pour le compte de qui je travaillais. »
Le chevalier revint au rapport qu'il avait entre les mains. Ce rapport commençait ainsi.
« Des questions, au nombre de 7, ont été posées par Monsieur le chevalier de la Tremblay à son très humble serviteur, Mathias Aubert. Le dit Mathias va s'efforcer d'y répondre d'une manière aussi complète que possible. Monsieur le chevalier conviendra sans peine, après avoir pris lecture de ce qui suit, que les investigations ont été poussées aussi loin que faire se pouvait. Première question. Où demeure Antonia Verdi?
Elle demeure rue de la Jussienne, numéro 7, hôtel de Lyon.
Deuxième question. D'où vient-elle?
Elle vient de Marseille, et sans doute d'Italie. Mais on ne peut compter sur la parfaite exactitude des renseignements qu'à partir de Marseille.
Troisième question. Quels sont ses antécédents?
La réponse à cette question était beaucoup plus compliquée et beaucoup moins facile à faire qu'aux deux précédentes. Voici ce qui a été exhumé du passé de l'aventurière en question et par quels moyens cette exhumation est devenue possible. L'auteur de ce rapport, après avoir appris qu'Antonia Verdi habitait la rue de la Jussienne, a cherché un moyen d'entrer en relation, soit avec la jeune femme elle-même, soit avec une des personnes de son entourage. Cet entourage se composait d'une femme de chambre et d'un laquais. La femme de chambre est une Italienne qui semble entièrement dévouée à sa maîtresse. Le laquais est un enfant de Paris, assez mauvais garnement, bien connu de monsieur le lieutenant de police, et avec lequel le hasard a permis que l'auteur de ce rapport ait eu d'anciennes relations. Tous deux se trouvèrent face à face devant la porte de l'hôtel de Lyon et se reconnurent sur le champ. Mathias Aubert emmena au cabaret Jean Carré, c'est le nom du laquais, et dans la conversation, entre les verres et les bouteilles, obtint de lui les détails suivants.